Vous écoutez
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
On y va là.
Parker qui a l'écran de Joan Pietro pour peut-être le panier à 3 points.
Yes, on y a une possession.
Oh yeah.
Spain have won the gold medal the second time in a row at the Eurobasket.
Bon moment et mauvais moment de part et d'autre. Voilà, on a tous des bons et mauvais souvenirs l'un contre l'autre. Donc.
Mais on les a tués. On est en finale. Face à côté. Mais oui. Oh le regard de Tony Parker.
Et on en rate encore.
Et voilà. Et on perd ce match au lancer franc. C'est abominable.
Presque le pied sur la ligne.
C'est abominable. On a perdu ce match au lancer franc.
On les aime pas parce qu'ils sont forts, mais je pense qu'ils nous aiment pas parce que ce qu'on est fort et qu'on peut leur créer des problèmes.
Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde.
Ah oui, un véritable je t'aime, moi non plus. Merci à Maxime Abolin pour cette production. 6 ans après leur dernier affrontement, les deux ennemis, la France et l'Espagne, se retrouvent donc ce soir en finale de l'Eurobasket. Une rivalité intense entre 2009 et 2016, surtout en pleine génération Parker, à coups de mauvais gestes, de fraches chocs, de victoires magnifiques et de défaites absolument horribles. La musique qui fout les jetons. Et cette question, mes GG, jouer sur cette rivalité, est-ce le bon moteur pour la finale? Oui ou non? Sarah Pitkowski.
Oui, c'est un moteur.
Christophe Furios.
Oui, c'est un moteur, effectivement. Maintenant, c'est pas le seul. Hein.
Ok, mais c'est plutôt oui. Christophe Cessieux.
La haine est mauvaise conseillère.
Ok. Simon Dutin.
C'est comme Christophe, moi, je n'aime pas la haine. Je pense pas.
On a parlé de rivalité.
Ok, on arrive dans quelques instants pour le débat. Stephen Brun, au moins.
La question,
oui ou non.
Détester l'Espagne, est-ce un bon moteur avant la finale? Là, il a changé la question, là, tu vois. Il l'a atténué.
Oui, mais
bon. Bah, donc, il faut
changer. Non, mais attends, c'est Jean-Christophe, ça.
J'arrive, Simon, s'il te plaît. Stephen Brun, oui ou non?
Non, pas là.
Voilà, très bien. Avant de débattre, on va retrouver la voix du basket sur RMC. C'est Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut les GG.
Salut Arnaud.
Vincent Collet va-t-il insister sur cette rivalité, lui qui l'a connue évidemment avant cette finale?
Pas tant que ça, car les joueurs de cette année ont été moins touchés que leurs illustres prédécesseurs. Tu les as mentionnés, Tony Parker, Boris Diaw, Florent Pietrus. Je rajoute évidemment Nicolas Batum et Nando De Colo qui sont toujours en activité, mais pas présents à cet Euro. Le dernier France-Espagne en compétition remonte quand même il y a 6 ans. Et les 12 Français présents à Berlin n'ont pas autant souffert que la génération précédente. Et globalement, voilà, l'équipe d'aujourd'hui n'était pas sur le terrain lors des blessures au JO de 2012-2016. Finale de l'Euro 2011, il y a eu la belle victoire en 2014 à la Coupe du Monde en Espagne face à la grande Espagne. Et finalement, que cette équipe de 2022 n'ait pas autant eu de blessures, ça ne déplaît pas à Vincent Collet, le sélectionneur qui lui a tout connu.
Je pense que c'est une autre époque, parce que c'est pas la même génération. Et c'est une bonne chose pour nous, parce que cette génération-là n'a pas souffert contre les Espagnols. Voilà. Contrairement à la précédente, hein, qui était quand même... même si on voulait se les sortir de nos têtes, ils y étaient quand même toujours un peu.
Même sentiment chez Evan Fournier, car c'est par le prisme des anciens que cette rivalité existe encore. Il raconte comment était Boris Diaw à l'annonce de la finale France-Espagne. Diaw et ses 247 sélections est aujourd'hui manager général de l'équipe et il a vécu beaucoup de traumatismes face à Rudy Fernandez et ses copains.
L'Espagne, c'est vraiment par rapport aux anciens. Pour être honnête avec vous, Boris, hier, t'as l'impression que c'était un joueur. Et il voulait mettre son short, ses chaussures et foutre des brins, tu vois. C'est très marqué chez les anciens. Il se trouve que notre coach, les kinés, Théo, l'intendant, Fabrice, etc. Voilà, ils ont vécu beaucoup de moments contre l'Espagne, plutôt mauvais. Et ça se ressent chez eux. Nous, les joueurs, beaucoup moins, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu. Un gars comme Thomas, moi, Rudy, on arrive en 2014 et on gagne contre eux. Alors on perd en 2015, certes, mais c'est pas exactement pareil.
Et pour conclure, je vais remuer le couteau dans la plaie sous Vincent Collet. Donc depuis 2009, le bilan français contre l'Espagne, 3 victoires, 14 défaites.
Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces précisions. Jouer sur la détestation des Espagnols, est-ce le bon moteur pour cette finale? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Nicolas Batum, qui a bien connu les Espagnols, sera avec nous dans quelques instants. Stephen Brun, tu démarres ce débat. Oui. Pour toi, c'est non, pas là.
Bah, vous l'avez entendu, et pour avoir discuté avec pas mal de garçons hier lors de la dernière séance d'entraînement, eux ils sont pas omnubilés par les Espagnols parce qu'ils ont pas vécu les traumatismes. Alors peut-être que Vincent Collet, Boris Diaw, forcément essayent de discuter avec eux pour leur faire comprendre le poids de l'histoire. Mais eux il y a pas véritablement de haine. S'il y a un garçon qui peut peut-être énerver les Espagnols, c'est Rudy Fernandez, Rudy Lamèche, ce qui est le plus ancien joueur espagnol. On en peut plus de lui, on le déteste. Nico lui Nico ne l'aime pas non plus, il pourra vous le dire tout à l'heure, mais ces garçons-là, en fait, cette équipe espagnole, il n'y a pas de grandes stars. Tu vois, il n'y a pas de mecs qui... Il n'y a pas d'icônes, ce sont des joueurs du championnat espagnol, quelques petits joueurs NBA, mais qui n'ont pas non plus des grands rôles dans les équipes NBA. Donc, il n'y a pas à avoir de haine contre les Espagnols, qui sont là, à la surprise générale. Et Rudy, Evan, Gershon Yabusele, en plus, on a un paquet de joueurs qui jouent dans le championnat espagnol, qui jouent dans les mêmes équipes que les garçons qui vont jouer. Donc, je suis pas sûr que la haine soit là. La vraie motivation ce soir, c'est d'être champion d'Europe pour cette génération, Rudy Gobert et Evan Fournier, et faire que leur équipe, sans Nico, sans Nando, puisse être sur le toit de l'Europe. Donc, il n'y a pas vraiment de haine, et je suis pas sûr que ce soit un bon moteur, parce que tu vas pas embrouiller un mec alors que t'as pas un passif avec lui, ça sert à rien.
Quoi. Bien sûr, il n'y a pas de passif, mais on sait que, les anciens collègues que l'on a très bien côtoyés ont eux un passif, et on veut peut-être faire perdurer et jouer sur cette rivalité. C'est pour ça qu'on vous parle de moteur pour Stephen Sennon. Christophe Urios, le manager, bah oui, c'est un moteur.
Oui, moi, je comprends ce que dit Stephen, évidemment, et je le partage aussi. Ça dépend tellement du contexte. Ça dépend tellement du contexte. Ça dépend tellement des joueurs que tu as à ta disposition. Comment ils sont câblés. Comment c'est quoi leur moteur de motivation, en fait, quoi. Donc voilà. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est indispensable. Ça permet d'élever son niveau. J'aime préparer les matchs avec de la rivalité. J'aime préparer les derbies. Je me sens à l'aise dans ce combat. Je vais vous raconter une histoire si j'ai trois minutes. Quand je suis arrivé à Castres, par exemple, nous, Castres-Toulouse, c'est une vraie rivalité. Tout nous oppose. C'est la grande ville, la petite ville, les grandes équipes, la laborieuse. Et quand je suis revenu à Castres en 2015, la première année, on perd assez facilement 30 et des brouettes. Et j'entendais dans le discours des joueurs que c'était la bête noire, que putain, mais c'est pas possible, il y a plus que ça, quoi. Et en fait, quand on a reçu cette équipe, et puis je l'ai instauré en tant que rituel, je faisais venir des anciens la veille des matchs, qui parlaient un peu de cette équipe de Toulouse, qui était une équipe redoutable, et souvent les Castriens on a morflé contre eux, quoi. Donc, et je voulais qu'ils partagent ça un peu. Les gars, Toulouse, c'est pas qu'un match, hein. C'est pas qu'un match. Et il se trouve que les trois années qui ont suivi, dont les six rencontres, on a quasiment plus perdu de match. Donc ça, c'est pas parce qu'on a fait venir les anciens, hein, mais parce qu'on s'est mis dans le contexte de dire bon, c'est pas un match comme les autres. Si je fais ça à Bordeaux, je l'ai fait parfois sur les matchs avec La Rochelle, par exemple, où il y a une espèce de rivalité, mais finalement on gagne pas les matchs. Donc il faut que je
tombe. Il faut bien choisir son moment.
Voilà, il faut sentir le moment, le contexte, et puis les joueurs que tu as. Voilà, nous à Bordeaux, on va plutôt insister sur la notion de rugby, quoi, parce que on est des garçons comme ça. À Castres, je pouvais insister là-dessus parce que j'avais des grognards, quoi, et des mecs qui aimaient ça. Donc j'étais à l'aise avec ça.
Nicolas Batum est avec nous dans quelques instants. Un mot quand même chacun sur cette détestation. Christophe Cessieux.
Moi, je ne pense pas que ce soit la haine n'est pas bonne conseillère. Rappelez-vous, il y a des exemples dans tous les sports. Nico va pouvoir en parler, mais il y a ce match, je crois que c'est en quart de finale des Jeux à Londres en 2012. Bon, l'équipe de France est menée par l'Espagne. Elle est quasiment en train de perdre le match. Et Nico, tu sens qu'il y a tellement de haine envers cette équipe. Il fait un geste incroyable. Il lui met quasiment un coup de poing.
C'est le plus beau geste, c'est le plus beau geste du basket français sur l'espagnol.
Aujourd'hui, ça reste dans les annales. Rappelez-vous de Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006. Évidemment, l'autre lui fait vraiment péter les plombs. Mais il réussit à lui faire péter les plombs. Et puis, rappelez-vous aussi de tous ces souvenirs des France-Angleterre où les Anglais nous détestaient, mais surtout savaient nous rendre fous et nous faire dégoupiller. Et on a perdu un nombre de matchs incalculables, notamment dans les années 90, face à l'Angleterre dans le fameux crunch, parce que on les détestait, mais ils s'amusaient justement, et eux ils contrôlaient le truc, et nous on savait plus contrôler rien du tout, quoi.
Mais qui dit que les Anglais n'utilisaient pas le fait de détester la France?
Oui, mais alors ils savaient garder la mesure,
ils nous méprisaient, et ils n'avaient pas du tout cette espèce de
le
sur nous.
Le latin, tu lui mets un drapeau, un truc rouge devant le nez, il devient dingue, quoi.
Qui vous dit que dans les vestiaires, l'entraîneur ou le manager n'utilise pas cette rivalité pour aller chercher quelque chose de plus?
Il faut garder la mesure.
On ne l'utilise pas comme élément de motivation.
Je pense vraiment que c'est la qualité de ton groupe, quoi, qui est importante. Oui. Voilà. Il y a des joueurs qui sont câblés comme ça, qui ont besoin de ça, c'est un moteur, hein. Et d'autres, mais un peu moins, et d'autres, ça les touchera pas, parce que l'histoire a fait que c'est comme ça, parce que leur histoire personnelle est comme ça. ça. Mais moi, quand même, j'ai la faiblesse de penser que dans les matchs comme ça, un jeu très important, avec des rivalités encore fortes, ben, ça te permet quand même d'élever ton niveau de ton niveau. Alors que ce soit sur le plan de l'agressivité, mais aussi sur le plan de la réactivité, de ton jeu, d'être ensemble, de faire un bloc. Je pense que ça reste un moteur quand même fiable, même si, encore une fois, il y a des joueurs qui sont pas capables de l'assumer.
Mais on parlait des joueurs qui n'ont pas connu forcément cette rivalité, même s'ils l'ont vécu dans leur canapé comme nous, et même nous, à un moment donné, on en venait à détester un peu les Espagnols. Vous voyez ce que je veux dire? Du basket, hein, en toute bienveillance. Il y a encore Vincent Collet, il y a Boris Diaw dans le staff, et eux, ils l'ont connu. Nicolas Batum, tu faisais référence à ce crochet magnifique pour Stephen Brun, pour nous aussi un petit peu quand même. Nicolas Batum est avec nous. Salut Nico.
Ça va tout le monde?
Salut Nico.
Écoute, très bien, on est très heureux de te recevoir dans cette émission pour parler des Espagnols. Est-ce que selon toi, essaye de répondre à cette question, il faut jouer sur cette rivalité ce soir, même si c'est un autre contexte, même s'il y a d'autres joueurs?
Je pense que nous, les fans qui l'ont regardé, oui. Si ça peut nous motiver et d'avoir, en tant que supporter, les pousser, oui. Mais les 12 joueurs, non. Non, parce que même si Vincent peut passer son discours là-dessus, je pense qu'il va le faire. Et Ivan a très bien dit, et Steph aussi, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Donc, la plupart des joueurs, les trois quarts des joueurs, n'ont pas connu et souffert et vécu ce que nous, on a connu face à eux. Et puis en face, c'est pas non plus les mêmes joueurs. Il n'y a pas les frères Gasol, il n'y a pas Navarro, il n'y a pas Llull, il n'y a pas Rubio. Il y a pas Rodriguez, il y a pas Ibaka, il y a pas Mirotić, il manque quasiment tout le monde. L'équipe qui ils sont champions du monde en titre. Mais l'équipe qui est championne du monde en 2019, tous les gros joueurs qui ont donné le titre mondial ne sont quasiment pas là, à part Rudy Fernandez et peut-être Hernán Gómez qui avait des petits rôles mais pas les gros rôles majeurs.
Mais Nicolas, donc, toi, t'es dans cette équipe. Imagine, oui. T'es dans cette équipe, si tu avais été en finale de l'Euro avec eux. Mais je sais, mais est-ce que toi, tu aurais insisté là-dessus sur le poids de l'histoire parce que ça te semble indispensable pour préparer
Navarro,
une finale?
Il est où Navarro?
Oui, si j'avais été là, ça aurait été différent parce que moi, j'ai un joueur qui a vécu tout ça, ou Nando pareil. Mais là, c'est une équipe où les deux leaders ont une défaite, par exemple, en 2015. Mais comme a dit Evan, la première fois qu'il joue l'Espagne, lui, il est bas à domicile. Il leur crève le cœur. C'est son premier souvenir en jouant l'Espagne. Donc, c'est différent. Mais je pense que eux, ils sont dans un mode où ils sont plus en mode, on a déjà crevé le cœur de l'Espagne, on va continuer à le faire, que l'inverse. Donc, ils commencent leur rivalité à eux, en fait. Ils la commencent eux-mêmes. Ils sont favoris. Ils le savent. C'est la première fois qu'une équipe de France est favori face à l'Espagne en demi ou en finale d'un grand championnat. L'histoire est inversée. Jouer sur la rivalité, ils n'ont pas besoin. Parce que c'est plutôt l'Espagne qui va jouer là-dessus. Parce que l'Espagne n'est pas favori ce soir. Et l'Espagne va jouer là-dessus.
Ok.
Nous, non.
Après, c'est un ressort après, pour une autre équipe. Stephen Brun et après Simon Dutin.
Après, je sais, Nico termine par l'Espagne va jouer là-dessus, mais cette équipe espagnole, elle est particulière. C'est qu'ils ont un meneur de jeu qui est le meilleur joueur de cette équipe-là, qui a eu un passeport qui s'appelle Lorenzo Brown, qui est un Américain, qui a eu un passeport il y a 2 mois. Moi, je suis curieux de voir comment les Espagnols, Sergio Scariolo et ses coéquipiers, vont, en l'espace de 2 jours, inculquer cette rivalité à Lorenzo Brown, qui, de l'Espagne, je sais même pas ce qu'il connaît, les churros et les tapas. Donc, Ça
vaut être le meilleur joueur de match. Qui connaît rien
à la rivalité. Donc, il va regarder une vidéo, il va voir Nico mettre un énorme coup de sagaie dans les Chicago Bulls de Juan Cannavaro. C'est tout ce qu'il va voir. Mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment une haine contre les Français.
Justement, Nico, moi, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que lors des multiples rencontres avec les Espagnols, il y avait cette espèce de tension, il y avait les mâchoires un peu serrées parce que il y avait eu des défaites, il y avait des envies de revanche. Est-ce que toi, lorsque tu rentrais sur le terrain avec tes copains, tu sentais que en face, il y avait la même envie de vous taper, quoi, la même rivalité que celle qu'on nourrissait nous en France face à eux?
Parce que mais ils l'ont dit, je pense qu'il y a eu... on savait très bien qu'à un moment donné, on va aller se rencontrer, nos chemins allaient se croiser, quoi qu'il arrive, et ça s'est quasiment passé quasiment à chaque fois. Et à chaque fois, il y a eu une échauffourée, il y a eu une grosse faute, une bagarre, il y a eu une manchette, des expulsions, il y a eu... Mais quasiment à chaque fois. Donc, quand on se croise avant, après le match, l'année dernière, on est joué à Bercy, on est au même hôtel, et tout le monde se dit bonjour et papa dans le haut de l'hôtel. Mais par contre, quand le ballon est lancé et ça joue les 5 contre 5, on peut pas se blairer. Mais parce qu'on se respectait mutuellement, on était les deux meilleures équipes d'Europe.
Et alors ça, c'est intéressant parce que comme ça, on se dirait pas, il y a du respect. On sentait une rivalité, une haine.
Énormément de respect.
Toute proportion.
Il y a une haine. Il y en a une. Regarde, Gasol et Tony ont joué ensemble à San Antonio. Ils étaient super potes. Mais par contre, quand il y a maillot bleu et maillot rouge, ils pouvaient pas saquer.
Stephen Brun.
Mais c'est ce que c'était comme ça.
Mais alors, j'ai une petite anecdote ici. Je peux vous dire que la haine Espagne-France, elle existe encore, mais chez les anciens. Alors, il faut savoir que moi, en tribune de presse, j'ai le maillot de l'équipe de France et je suis insupportable pendant les matchs de la France. Je me lève, j'encourage.
On l'imagine.
Tout le monde me voit en tribune de presse. Je mets la haine à tout le monde. Et hier, j'ai reçu un message de la FIBA qui m'a dit Monsieur Brun, des collègues espagnols m'ont dit de vous dire qu'il ne fallait pas mettre le maillot de la France. C'est interdit en tribune de presse. Il fallait que vous soyez un petit peu calme. Donc, tu vois, cette haine, elle est là. Chez les anciens. Mais bien sûr que je vais le mettre, Nico. Je le sais. Oh.
En plus, c'est le dernier match. Alors, même si après,
il verra les prochains championnats en studio à Paris. C'est pas grave.
Nicolas, une dernière question. Nicolas Batum avec nous en direct dans les GG du sport. J'imagine que tu as les copains au téléphone, par texto. Ils vont comment? Ils sont prêts?
Non, je les ai pas eu. J'ai juste vite fait après la demi-finale. Je parle à Rudy le soir de demi-finale. Mais un truc comme ça, je laisse tranquille. C'est leur moment. C'est leur moment, c'est un gros match. Ils vont peut-être, à part Thomas, ils ont jamais connu ça. Il n'y en a aucun, je crois, qui a été champion d'Europe, ou très peu. Enfin, surtout les deux leaders, que chez Kevin, ils recherchent ça depuis qu'il a 15 ans. Non, je les laisse dans leur truc. C'est leur moment, c'est leur finale, ils peuvent écrire leur histoire. Donc,
ils vont gagner ou pas?
Mes intérêts à gagner, ils vont gagner. J'ai juste envoyé un message sur le groupe tout à l'heure, mais je vais juste laisser dans leur truc, ça sert à rien. C'est leur moment à eux.
Bah, j'imagine en tout cas à quel point tu dois avoir des fourmis dans les jambes quand tu vois un France-Espagne, toi qui as connu évidemment ces grands France-Espagne qui nous ont fait vibrer, mais aussi qui nous ont un petit peu traumatisés. Merci Nicolas Batum d'avoir été avec nous et à très vite sur RMC dans les grandes gueules du sport évidemment et premier supporter des Bleus ce soir pour ce match face à l'Espagne. Stephen Brun, tu vas faire quoi de ta journée mon cher Stephen? C'est 20h30.
Tu veux mon petit planning?
J'aimerais bien un petit planning croustillant, on a tous envie de savoir.
Alors déjà j'ai savoir que je me suis réveillé à 9h45 pour être prêt avec vous à 10h. Je trouvais ça important de faire un réveil musculaire pour être en forme avec vous.
Bien sûr, c'est bien le dimanche matin de pouvoir se lever à 9h45. Ça, c'est rare hein, pour toi.
Ouais, c'est très bien, c'est magnifique. Surtout que j'ai fait une petite semaine agitée parce que je suis allé voir les bas-fonds de Berlin et il se passe des choses un petit peu particulières. Après, écoute, je vais retourner dans ma chambre, j'y sais, je vais faire ma petite lecture de presse, revue de presse pour prendre quelques informations. Après, je vais aller me marcher, me balader. Après, j'ai pas mal de points à faire parce qu'on fait quand même une journée
sur RMC. Bien sûr.
RMC, on reçoit beaucoup d'invités, beaucoup d'anciens champions d'Europe 2013, Michael Gilabal, Antoine Dio. On aura Boris Dio à 19h, à 1h30 du coup d'envoi.
Dans Bartoli Time, tu seras là également.
Dans Bartoli Time, exactement. Donc voilà, je vais mettre un petit peu dans le banc. Je vais aller voir ce qui se passe près de la salle, s'il y a 2-3 mecs avec des drapeaux espagnols pour mettre une petite balayette tranquille.
Ok, très bien. Et tu mettras évidemment le maillot ce soir de l'équipe de France.
On veut des photos.
Je vous enverrai une photo.
Si tu mets le maillot, tu es mon idole.
Hein. Je veux le regarder. Et envoie la photo à Christophe. Merci Stephen et passe une belle journée.
Merci à vous.
Et à bientôt évidemment. On te retrouve toute la journée, 20h30 aux commentaires. Stephen Brun, Arnaud Valadon.